plaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Le best-of de Polyplaisir des Utopies que Guylain Aumont, notre ami de Paris, a réalisé pour nous. Guylain, c'est aussi celui qui est à la base de polyamour.info pour ceux qui connaissent. Et amour.pl. On est parti pour une dizaine de minutes avec les meilleurs moments donc, de cette première mission Polyplaisir des Utopies. À tout à l'heure.
Ça me faisait plaisir de savoir heureux avec d'autres femmes. Moi, je le trouvais même plus, encore plus désirable, encore plus beau. Je me disais, je ne me trompe pas, il n'y a pas que moi qui le trouve sexy, quoi. Donc,
il y a une grande sérénité dans ce que tu dis là.
Oui, mais peut-être parce que je suis quelqu'un qui est terriblement bien avec elle-même, en fait. Moi, je répète une phrase que Brigitte Bardot disait souvent, a dite, et j'ai repris. Un jour, un journaliste demande à Brigitte Bardot, mais en fin de compte, c'est qui l'homme de votre vie dans tous vos amoureux? Puis elle dit, mais c'est moi-même. Et en fait, je me sens comme ça, en fait. Je ne suis pas amoureuse et je ne tombe pas amoureuse parce que j'ai besoin d'un homme ou d'un protecteur ou de me sentir aimée. Je me sens très très bien avec moi-même, avec mes enfants et mon travail et toutes mes nombreuses passions.
J'ai ces envies, ces désirs. Est-ce que je ne suis pas complètement cinglée? Tout le monde, enfin, un certain nombre de gens me disaient, mais ça va pas, t'es folle, t'as un mari sympathique, des enfants et tout, mais enfin, t'as là une vie de rêve, qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Et j'allais pas chercher ailleurs parce que ma vie ne me convenait pas. J'adorais ma vie, mais je me disais, il y a plein d'autres choses à découvrir, une curiosité, quoi. Je me sentais, j'avais envie d'explorer. Et donc, je suis allée voir un psy, quelques temps, on a parlé, puis un jour, je lui ai dit, je suis comme ça, et alors? Et bien, il m'a dit, voilà. Et ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, acceptons. Et puis, avec mes faiblesses, avec mes moments de chagrin, de doute, il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me sentais en pouf, pas le moral, baisse d'énergie. Et alors, mon mari était inquiet, il me dit, ça ne va pas, etc. Il croyait qu'il y avait quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui dis, rien, tu sais, ça arrive. Au fond, si j'étais toujours de bonne humeur, toujours en pleine énergie, alors que le monde autour de soi n'est pas forcément si facile, c'est là que je serai normale et folle. Je pense qu'il faut respecter aussi ces périodes de basses énergies.
Si je me sors du chemin tracé du couple, du mariage, de la maison, du chien, des enfants, quel sens a ma vie? Et ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du tout prêts à l'affronter.
Être polyamoureux, c'est peut-être aussi n'avoir personne et être très bien.
Le soir, j'ai vu mon copain officiel et à qui j'ai dit ce qui s'était passé. Et il a eu une première réaction qui était de me dire « Tu étais ma déesse et tu es tombée de ton piédestal. » Ça m'a un peu fait ni chaud ni froid, je dois avouer. Et puis le lendemain, il avait manifestement dormi sur le truc et il se disait que finalement c'était assez pratique. Et il a embrayé comme ça. Pour moi, le polyamorie, ça me permet ça aussi. C'est-à-dire d'accéder à des compagnons qui sont très insatisfaisants, en les ayant à temps partiel, et du coup ça passe mieux.
Mais c'est vrai que dans le polyamour, les mauvais côtés de l'autre sont vraiment très agréables. On n'est pas obligé, comme avec un compagnon, une épouse, se dire « Ah mon Dieu, je vais devoir supporter ça ». Non, ce sentiment de liberté fait que c'est plus que supporter. On aime les défauts de l'autre, je trouve.
Je me dis à chaque fois, tiens, là, t'es dans un truc de passion. Oh là là, tu veux partir en vrille, toi. Puis je me regarde un peu à l'extérieur, ce qui me permet de garder un peu d'humour, de me trouver parfois un peu ridicule quand je suis passionnelle, mais sans, ce qui ne m'empêche pas de la vivre. Et si, par exemple, j'étais tentée, je dis j'étais tentée parce que maintenant, ça ne m'arrive plus, mais quand j'étais jeune, plus jeune, je me serais dit, je pars, il faut absolument. Je faisais une lettre à l'homme pour lequel j'étais passionnée, une grande longue lettre, mais je ne lui envoyais jamais. Et puis je la mettais dans un coin. Mais alors, le fait simplement de l'avoir écrite m'avait complètement soulagée de cette espèce de trop-plein de lyrisme dont on parlait tout à l'heure. Donc je faisais une belle lettre lyrique, je la relisais, des fois je pleurais comme une madeleine dessus, puis je la mettais dans une enveloppe. Eh bien, je peux te dire que 10 fois sur 10, en la relisant un mois et demi après, je me disais, mais ça va pas, non? Et donc ça apprend à prendre la juste mesure des choses. Ça n'empêche pas du tout de vivre des choses fabuleuses, mais ça permet d'avoir du recul. L'écriture te permet comme ça de prendre un recul sur ta vie.
Oser mettre sa main voilà, sur le torse de quelqu'un, c'est ce que j'ai pu faire, d'un autre homme, c'était quand même pas gagné. Je veux dire, moi j'ai eu des larmes, quoi. J'ai eu des larmes, et je m'y attendais pas. Et donc ça a été un vrai cadeau, parce que à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai réglé assez définitivement l'idée de la douleur dans la jalousie, quoi. Même si peut-être que d'autres relations me feront réapparaître un peu ce sentiment-là, mais ça a été une découverte magique.
Au niveau du désir sexuel, il y a un peu ça. Tu peux tenter des expériences, et puis le lendemain, si tu te dégoûtes un peu, si tu dis « mais qu'est-ce que j'ai fait, je suis complètement cinglé », c'est que c'était pas bon pour toi. Si tu te dis « oh bah dis donc, t'es allé loin aujourd'hui, mais que t'as le sourire aux lèvres, c'était bon ». Et donc petit à petit, tu apprends, et tu apprends aussi très sereinement à dire « ça, j'en veux pas ». Et même si tout le monde te dit « oh là là, mais t'es pas libéré, tu veux pas ça », tu dis « c'est pas ça, mais c'est pas bon pour moi ».
Mais je ne vais pas dire que ça y est, c'est fini, je ne vivrai plus jamais en couple. Je laisse finir les choses au jour le jour. Et ça, c'est aussi la liberté.
Si tu ne sais plus revenir par rapport à ta proche, ta dulcinée, si tu ne sais plus la nommer, si tu veux, en tant que fée, déesse, avec tes mots à toi, hein, pas des mots cliniques, si tu veux, avec tes mots à toi, quel récit peux-tu me raconter de cet amour, quoi ? Et je pense aussi que polyamour contribue à ça, c'est de se réapproprier le récit de ce que ça signifie rencontrer, connaître, être fusionnel avec quelqu'un et avoir ce privilège d'être dans une proximité extraordinaire.
Il y a un merveilleux, de toute façon, à se dire qu'on invente sa vie.
Dieu s'impose comme un homme barbu. Là, on est parti dans un drôle de trip.
Dans les groupes militants, il y a aussi un marquage qui est assez marrant, qui est qu'il est très mal vu quand on est de gauche d'aller coucher avec quelqu'un de droite.
J'aime pas trop les foudagnes non plus.
T'en as eu ta dose à d'autres époques ou quoi ?
Oui, j'ai eu un certain nombre de foutraques et c'était pas les plus intéressants.
Heureusement qu'il faut pas encore mettre des capotes à la métaphore.
Pour moi, le sexe était quelque chose un peu pour les losers qui avaient rien de mieux à faire. Pour moi, c'était dommage d'en arriver là, quoi, à la limite de s'intéresser au sexe et à ça.
Christ était un polyamoureux.
La beauté n'est que polythéisme. Et le polythéisme n'est jamais quelque chose de fixe.
Et il lui avait dit, il faut que tu aies des amants pendant que je ne suis pas là, pour que quand je reviendrai, j'ai une femme désirante.
Magnifique.
Et alors, dans ce journal intime, elle racontait ses aventures. Et alors c'était très joli parce qu'il lui avait quand même dit « Je veux uniquement que tu aies des amants militaires comme moi ». Alors elle allait aux messes des officiers, elle allait voir les officiers qui étaient en permission et puis elle leur proposait et puis ça se passait très bien. Et elle l'écrivait à son mari au front que « J'ai appris telle ou telle chose, etc. Je vous montrerai à votre retour » parce qu'en plus, ils se vous voyaient, tout ça.
J'avais envie de dire bien que cette jeunesse mouille.
Et l'anarchiste, il aura une femme à lui et dira dans l'histoire, il y a eu ça. Je me souviens, au XXe siècle, il y a des documents qui disent que chaque homme avait sa femme. Hein, et on sera au XXIVe siècle et il dira, ah, c'était quand même le bon temps. Hein.
Un de mes amis me dit, oui, t'as le cul en feu. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Alors, je réponds même plus.
Le polyamour platonique, ça dérange pas grand monde, hein, on est d'accord. C'est plutôt le polyamour consommé qui va commencer à stresser les gens. Dès l'instant, on dit le sexuel est permis, un petit peu à droite, à gauche. Vous mettez une petite couche de sentiments. Voilà, ça stresse un peu.
Il sentait ce vent de liberté à travers ce que j'écrivais. Je n'osais pas dire que c'était très autobiographique au départ, parce que moi, c'est petit à petit que je... Maintenant, je ne me cache plus. Je suis une polyamoureuse. Et j'assume, et je me sens pas une salope, comme toutes les femmes qui aiment du fond de leur corps ne sont certainement pas des salopes. Mais j'avais du mal au départ à vraiment oser l'afficher, je vais dire, ou l'avouer.
On va mettre des tipis, hein, et on va commencer à faire une petite fumette ensemble, sortir un calumet de la paix, et puis hop, les filles à poil, et on y va, quoi. Non, c'est pas ça du tout, hein, absolument pas du tout.
Il y a probablement des gens qui se déclarent polyamoureux parce que ils ont peur de s'engager.
C'est pas les divorces qui ont fait que j'ai remis en question le modèle monogame, c'est le fait que la plupart des couples monogames que je connaissais dans ma famille, tout ça, ça me donnait pas envie. Ils ont pas divorcé. Moi, dans ma famille, personne n'a divorcé. C'est juste que je m'aperçois après coup que pour moi, c'était pas vraiment un modèle.
Dans un couple normal, si ça va mal, l'environnement va leur dire oui, mais les couples, c'est comme ça. Tandis que si on fait une tentative, par exemple, polyamoureuse, et que ça ne marche pas, l'environnement aura tendance à dire, sans le dire, hein, on le dit sans le dire, de « oui, bon, hein, voilà ce qui arrive hein, dans ce cas-là. Hein, si on cherche les emmerdes, voilà qu'on les trouve. » quoi. Les rôles des femmes et des hommes sont encore fort affirmés, hein, encore que c'est en train de diminuer, mais les rôles, pour l'instant, en tout cas, sont encore fort affirmés. Et c'est de ce coin-là, de cet angle-là, qu'est venue toute la problématique du polyamour.
Je trouve que le macho est quelqu'un qui a peur des femmes, ou en tout cas peur de leur pouvoir de séduction. Parce que lui, peut-être, n'est pas capable de maîtriser l'effet qu'il peut avoir, et donc du coup, craint peut-être l'effet que peut avoir ce pouvoir de séduction sur d'autres hommes.
Et si on laissait faire la femme, si on la laissait décider, peut-être bien qu'elle est moins possessive, peut-être bien qu'elle voit les choses autrement.
Lilith, c'est la première femme d'Adam dont il a eu peur. Et Lilith, pour moi, c'est la femme qui reste libre. Et donc, si elle est libre, ça veut dire qu'elle peut s'inscrire au niveau de ses sentiments vers d'autres corps, qu'ils soient féminins ou masculins.
Pour moi, l'intérêt aujourd'hui du polyamorie, c'est de s'affranchir au départ du handicap de la représentation patriarcale traditionnelle.
Moi, je sais qu'en tout cas, un homme profondément viril est un homme qui a retrouvé sa féminité. Et c'est vrai qu'en général, ces hommes vraiment virils sont des êtres plutôt paisibles, tendres et en très bon contact avec la femme, en effet. Et en général, c'est des très bons amants aussi.
Je pense que la liberté de la personne qui est en face de nous est aussi importante que sa propre liberté. Donc, c'est là que le machisme ne rentre pas du tout dans la fenêtre, parce que j'ai pas envie de posséder, j'ai envie de passer des bons moments avec quelqu'un.
Qu'on arrête cette image stupide que le mouvement hippie, ou en tout cas la représentation de la femme, en fait, ou de l'homme dans le mouvement hippie, était la femme à poil avec une petite marguerite dans les cheveux. Hein. Je suis désolé, j'ai pas trop connu ça. Et que l'homme, c'était en fait presque l'homme habillé en Cro-Magnon, quelque part en Suisse ou bien en France, avec ses moutons. Quoi. Moi, personnellement, j'ai pas trop connu ça. Moi, j'ai connu, en tous les cas, en fait, des gens qui prenaient la parole, des femmes qui ont pris la parole.
Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels en Belgique, les dates de rencontres Polycafé, ainsi que la possibilité de réécoute de l'émission. Je vous rappelle également les différentes diffusions de Polyplaisir des Utopies sur Radio Campus. Elles ont lieu chaque deuxième mardi du mois à 11h et en rediffusion chaque quatrième jeudi à 16h. Tout cela en fréquence modulée 92,1 MHz à Bruxelles. Je retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des utopies.